Maxime Maury, économiqueur.
Jacques Laverne.
Bonjour. Dire la vérité sur l'économie. Bienvenue à toutes et à tous sur SC Occitanie, heureux de vous retrouver, heureux de retrouver Maxime Maury, on s'est retrouvé quand même pendant les vacances.
Bonjour Jacques, nous sommes des journalistes masqués.
Voilà, nous sommes masqués, c'est très compliqué de faire de la radio avec un masque, chaud, c'est une contrainte, mais non, on sait aujourd'hui qu'elle est nécessaire, qu'elle est incontournable et que nous devons tous non seulement nous protéger, mais surtout protéger les autres, puisque le masque est un geste social, un geste de sociabilité dont nous avons, me semble-t-il, bien besoin par les temps qui courent. Alors, thème du jour, nous allons vous parler, et ça ne vous étonnera pas, de la situation économique après la première vague de Covid-19 et de ce qu'il en est résulté, un plan européen, un plan de relance du gouvernement français de 100 milliards, et nous allons faire un peu de prospective, essayer d'éclairer cette situation que personne ne comprend forcément très bien, puisque on voit les milliards tomber, ça peut-être donner une fausse image de la réalité de cette situation, qui est quand même extrêmement préoccupante et soucieuse. Maxime nous l'expliquera tout à l'heure. Alors, comme d'habitude, vous savez que je suis porté sur les citations. Alors, la première, Maxime, le pétrole est une matière qui a un fort contenu diplomatique et militaire, un contenu fiscal important, et accessoirement, un pouvoir calorifique. Elle est de qui, à votre avis?
Aucune idée.
Vous ne l'auriez pas trouvé, c'est André Giraud. C'est une boutade d'André Giraud qui fut le ministre de l'économie.
De l'industrie.
Oui. Sous Giscard d'Estaing. Oui, alors pourquoi cette citation particulièrement? Tout simplement pour vous annoncer un spécial dans notre émission Résilience. Avec Économie, c'est une semaine sur deux. Et Résilience, c'est une semaine sur deux aussi. Et que nous avons l'intention de vous parler de ce qui est la grande affaire depuis 150 ans, c'est-à-dire le pétrole, le passé du pétrole, mais surtout l'avenir du pétrole qui nous inquiète, Maxime.
Pour rebondir sur votre propos, 10 secondes, lorsqu'on nous dit que nous retrouverons en 2022 le niveau d'activité de 2019, je dirais tout à l'heure que j'ai plusieurs raisons d'en douter, et l'une d'entre elles, peut-être la principale, est le pétrole.
Voilà, donc nous ferons cette émission spéciale avec un invité que j'ai contacté mais qui ne m'a pas encore répondu. Dès que nous serons calés, eh bien nous la mettrons sur les ondes après avoir passé une heure avec un monsieur qui s'appelle Mathieu Ozano, dont je vous parlerai en fin d'émission, vous verrez pourquoi. Et deuxième, en abondance de bien ne nuit pas, deuxième citation, alors celle-là c'est la spéciale rentrée pour Maxime. Toute personne qui croit qu'une croissance exponentielle peut se poursuivre éternellement dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste.
Oui, on peut dire simplement que pour que les Chinois et les Hindous aient le même revenu que les Américains, il faudrait trois planètes supplémentaires.
Et donc, je donne quand même l'auteur de cette citation, qui est un économiste américain, qui s'appelle Kenneth Boulding. C'est un peu iconoclaste, vous l'avez compris, à la nature de la citation, mais c'est un économiste américain, il devait savoir de quoi il parlait. Alors Maxime, donc nous trouvons aujourd'hui dans une situation sur laquelle on va revenir, une consommation qui s'est effondrée pendant le confinement, moins 11% deuxième trimestre, après nous sommes devenus repassés à moins 5,8, ça a rebondi en mai au point de retrouver quasiment son niveau d'avant-crise, mais l'investissement, lui, par contre, a connu un immense coup d'arrêt pendant le confinement, moins 17,8 au deuxième trimestre, et la construction en a souffert, l'industrie en a souffert, tout le monde en a souffert, puisque les entreprises ont dû réduire drastiquement leurs activités, la production totale de biens et de services a dévissé de 14,2%, donc c'est quand même tout ça des chiffres considérables.
Et maintenant l'INSEE nous dit, et le gouvernement nous dit, moins 9% pour le PIB sur l'année, ce qui serait un peu moins que le moins 11% qui était annoncé avant.
Voilà, les exportations bien sûr pénalisées, on s'en doute, moins 25,5%, et les échanges extérieurs ont amputé le PIB, qui n'en avait pas besoin, de 2,3 points. Je vous conviens que c'est très compliqué de parler avec un masque. Maxime.
Alors, moi je crois qu'il faut prendre... On va parler du plan de relance et on va aussi rappeler qu'avant le plan de... Alors, le plan de relance, c'est 100 milliards d'euros. Et avant le plan de relance, il y avait un plan beaucoup plus important qui a commencé au mois de mars. C'est le plan de soutien, 460 milliards. Donc, 460 plus 100, ça fait 560. Et 560, ça représente le quart du produit intérieur brut. Autrement dit, nous avons d'un côté une perte approximative de produit intérieur brut de 10%, et en face, nous avons deux plans qui représentent 25%. Donc, à la question, est-ce que les plans, l'action gouvernementale est à la mesure de l'enjeu? La réponse est oui. Elle est bien à la mesure de l'enjeu. Et s'ajoute un plan européen de 750 milliards, dont 40 milliards destinés à la France. Simplement, je pense que vous voulez revenir sur les mesures. Moi, je vais essayer de répondre à la double question auquel aucun journaliste ne répond. Qui va payer et quand? Alors, la première observation, c'est quand? Quand? C'est en 2021. Parce que le premier plan de 460 milliards...
Alors là, vous êtes, Maxime, sur le plan européen.
Non, je suis sur le premier plan du gouvernement français, qui est le plan dit de soutien, qui a commencé au mois de mars, pendant que nous étions confinés.
Vous pouvez peut-être dire avant de quoi il se compose, ces 100 milliards d'euros...
460 plus 100, 100 c'est le plan de relance.
Voilà, c'est un pari sur l'avenir, puisqu'on ne sait pas de quelle nature il sera. C'est un effort massif, de l'ordre à peu près de 4 points de PIB sur 2 ans, on est d'accord?
Et non, ça fait 25 points de PIB. 460 plus 100, ça fait 560, ça fait le quart du PIB.
Et il s'agit essentiellement...
Là, vous êtes sur le plan de...
Moi, je suis sur le plan de 100 milliards annoncé de...
D'accord, nous sommes d'accord.
L'État, hein, d'abord.
Mais moi, je crois que le premier a son importance, parce que c'est lui qui va me permettre à répondre à la question « Quand allons-nous payer ?» Parce que ce premier plan, dont les trois principales mesures, je vous la fais brève, sont le chômage partiel, on y reviendra si vous voulez, le gel de toutes les procédures judiciaires et des charges URSSAF, on y reviendra si vous le voulez, et... les prêts à l'État, 115 milliards, on y reviendra si vous le voulez. Tout ça a pour effet de reporter les effets de la dépression à 2021. Et le Premier ministre avait qualifié ce plan d'accompagnement des entreprises. Je ne fais aucune critique à ce stade. Ce que je dis, c'est que en payant le chômage partiel, l'État paye à la place des entreprises, mais ça ne va pas durer éternellement, puisque nous savons qu'à partir du mois de novembre, l'État va diminuer progressivement sa contribution.
Une contribution qui, jusque-là, massive. Hein,
total, c'est-à-dire que...
19,5 milliards d'euros aux finances publiques, il faut le savoir.
Bien sûr, c'est-à-dire que le salarié est payé à 84% de son salaire net, et l'entreprise ne paie rien. Mais... Monsieur Castex nous a annoncé qu'à partir du mois de novembre, c'était d'abord au mois d'octobre, puis il a reporté d'un mois, l'État va accroître la part revenant aux entreprises. Et il y a bien un moment où les entreprises assumeront la totalité, et le Premier ministre nous dit, alors je renvoie à ce moment-là la négociation sociale, négociation sociale en France, ça ne marche pas beaucoup, l'idée c'est de dire... C'est ça, c'est moi qui le dis, hein, parce que lui ne le dit pas, mais la négociation sociale, ça sera maintien de l'emploi versus baisse des salaires, l'État apportant en cadeau des actions de formation. Alors ça, c'est non dit, mais c'est sous-jacent pour 2021. Pas pour maintenant, pour 2021. La deuxième mesure de ce plan, 460 milliards, donc c'est 5 fois plus quasiment que le plan de relance, nous l'avions signalé à l'antenne, vous-même, vous m'aviez dit que vous aviez des sources du tribunal de commerce. Les procédures sont gelées. Elles étaient gelées jusqu'au 24 août. Le Premier ministre a prolongé le gel jusqu'au 24 septembre.
Du moins, les procédures, du moins le fait que l'État, à travers essentiellement l'URSSAF et le fisc aillent rechercher leurs créances.
Ça, c'est gelé jusqu'en 2021. C'est ce que vous m'aviez dit vous-même à deux sources.
Enfin, je n'ai peut-être pas dit gelé, mais je dis que les instructions qui ont été données font que le recouvrement de ces créances interviendra en janvier 2021. Ce qui fait qu'aujourd'hui, très curieusement, les tribunaux de commerce ne sont pas spécialement encombrés, puisque on n'a pas présenté la note à payer, si je puis dire.
Mais c'est pas, non, ils sont pas encombrés du tout, c'est gelé. Jusqu'au 24 août, c'était gelé, le Premier ministre a reporté d'un mois. Donc, tout est reporté en 2021. Et enfin, la troisième mesure, je ne les citerai pas toutes, mais que j'ai citées, c'est les prêts de l'État. L'État a engagé sa signature pour 115 milliards d'euros. 115 milliards d'euros, ça fait une fois et demie l'impôt sur le revenu. Pour des prêts, c'est-à-dire que les entreprises, quand elles sont rentrées dans la dépression au mois de mars, pendant que nous étions gentiment confinés, ont chargé leur trésorerie par des prêts qui engagent la signature de l'État et qui sont des prêts généralement à un an. Et M. Bruno Le Maire a veillé ces dernières semaines à renégocier avec les banques des taux d'intérêt intéressants et éventuellement le prolongement de ces prêts. Donc ma démonstration a pour but simplement de vous dire que pour le moment, nous n'avons rien vu des effets de la crise, puisque tout ce premier plan de 460 milliards, que je qualifierais de défensif, l'autre étant plus offensif, pour préparer l'avenir, comme vous l'avez dit, a pour but de reporter les effets de la crise. Seulement, voilà, la deuxième chose qu'il faut avoir en tête, donc première question, est-ce que c'est à la mesure des enjeux ? Oui, aucune critique à faire. L'INSEE vient de publier les chiffres de la comptabilité nationale qui nous montrent qui, en 2020, va payer les 220 milliards de revenus nationaux perdus. Parce qu'en fait, si c'est moins de 10%, encore une fois, l'INSEE, le gouvernement dit moins de 9%, peu importe, c'est en gros 220 milliards de perdus. Alors là, nous avons des chiffres très précis. Et ces chiffres vont me permettre de répondre à la question qui va payer ultérieurement. L'État paye à hauteur de 56%. 56%, c'est à peu près ce qu'il représente dans l'économie. Et finalement, nous suivons les prescriptions du bon docteur Keynes qui disait quand on est en dépression, on laisse filer la dépense, on n'augmente pas les impôts et on crée de la monnaie. Ça répond d'ailleurs à ce que vous me disiez la dernière fois. Vous me disiez, mais pourquoi on n'a pas fait ça avant ? Ben, c'est parce qu'on est en dépression et qu'en dépression, on fait ce que dit le docteur Keynes. 56%. Mais les entreprises, elles, assume 40% de la perte des 220 milliards de revenus nationaux perdus. C'est considérable. Parce que la part des entreprises dans le revenu national n'est pas égale à 40%. Et les particuliers, c'est-à-dire vous, moi, les salariés, 6%, c'est-à-dire rien du tout. D'ailleurs, vous avez constaté, votre retraite n'a pas baissé, la mienne n'a pas baissé, et il y a 600 000 salariés qui ont perdu leur emploi, mais ils sont indemnisés. Donc, en fait, ce que je veux souligner, c'est qu'en 2021, au moment où nous allons vraiment avoir plein pot les effets, le curseur va bouger, à mon avis, vers les particuliers. Alors, ce que je dis est très désagréable, hein, mais je pense que, à l'avenir, les entreprises vont payer moins et les particuliers davantage. Et ça, nous l'avions observé en 1974. J'avais 20 ans en 1974, mais je suivais déjà avec passion les effets du premier choc pétrolier. Nous l'avons observé aussi en 2008-2009. Là, j'étais directeur régional de la Banque de France. Je l'avais observé aussi. Quand il y a un choc de cette ampleur, c'est d'abord l'État et les entreprises qui payent. Mais après, dans un second temps, ce sont les particuliers. Et souvenez-vous du... Comment s'appelait-il le président de la République avant Emmanuel Macron ? François Hollande.
Oui, peut-être.
Bon, eh bien, vous vous souvenez que le CICE, ça avait pour but de rétablir les comptes des entreprises. Et la grêle d'impôts compris que nous avons pris en 2012, c'était le curseur finalement de la crise de 2008-2009 qui se déplaçait des entreprises vers les particuliers. Donc ça, aucun éditorialiste ne le dit, mais moi je le dis chiffre à l'appui, nous n'avons rien vu pour le moment de la crise, et le moment où nous y serons, c'est-à-dire en 2021, le curseur ira vers les particuliers, en particulier vers les salariés. Et le Premier ministre nous dit que nous serons sauvés par la cavalerie. Vous savez, quand les cow-boys sont entourés par les Indiens, à la fin, il y a la cavalerie qui arrive.
Alors là, la cavalerie... Alors
la cavalerie, c'est la croissance.
Oui, mais nous savons que croissance, il n'y a plus depuis longtemps, si ce n'est extrêmement symbolique. et que vraisemblablement, croissance, il n'y aura plus.
Alors, on peut dire que depuis 2008, le monde est dans une croissance, un rendement décroissant, et on pourrait faire une émission entière là-dessus. J'écoutais il y a quelques jours Laurence Salom, qui était dans mon jury de thèse, qui est un professeur parisien, et qui disait, pour un point de croissance, nous faisons un point et demi d'endettement, ce qui prouve que le système est grippé. Deux observations, le pétrole, je pense qu'à partir de 2022-2023, nous aurons, sous une forme que je ne peux pas préciser pour le moment, parce que je n'en ai pas la capacité, mais une morsure qu'on appelle oil crunch, c'est l'AIE qui emploie cette expression, et surtout, quand on observe ce qui s'est passé en 2008, nous avons attendu 2015 pour retrouver à peu près les chiffres de production industrielle de 2007, en tout cas en France et en Italie. Donc, je pense qu'une dépression de cette ampleur ne s'efface pas en 2 ans. Et si j'approuve complètement les mesures qui ont été prises, à la fois dans le plan de relance et dans le plan de soutien, je pense que nous ne serons pas sauvés par la croissance en 2022. Voilà, et c'est là que je suis.
Alors, si on n'est pas sauvé par la croissance, et on ne le sera pas, je crois que tous les spécialistes sont à peu près d'accord, qui c'est qui va payer ? Parce qu'il faudra bien quand même que cette immense dette soit payée. On n'a pas l'impression que nos concitoyens s'en inquiètent beaucoup.
Non.
On n'a pas l'impression qu'ils ont pris la mesure du défi, la mesure du sinistre, et qu'ils aient adapté leur mode de réflexion, de pensée, leur logiciel, comme l'on dit maintenant, à ce défi. Alors, qu'est-ce qui va se passer, Maxime ?
Alors, ce que je souhaite, c'est, si vous voulez bien, qu'on reste sur les mesures. Pour le moment, ce qui se passe, c'est que notre État s'endette, et d'ailleurs tous les États s'endettent, et je vous ai mis une petite gravure sous les yeux, que nous décrirons aux auditeurs tout à l'heure, qui est l'hélicoptère monétaire, qui est une gravure que j'avais découpée dans la presse en 2008. Donc nous créons de la monnaie. La BCE, la Banque de France, crée de la monnaie. Alors, on pourrait s'interroger sur les effets de cette création monétaire. Ça pourrait faire une émission entière. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que pour le moment, ce sont les entreprises qui payent, et ça veut dire que la compétitivité de nos entreprises se dégrade dans des proportions extrêmement importante. Vous-même, vous aviez signalé sur cette antenne il y a exactement 8 mois que le niveau d'endettement des entreprises françaises est très élevé. Et effectivement, c'est à peu près 140% du PIB, donc un endettement plus fort encore que celui de l'État. Et j'ajoute que les fonds propres des entreprises françaises sont, par rapport à leur bilan, à peu près 3 fois inférieurs au niveau des Américains, par exemple, pour donner ce... Donc, en fait, nous sommes dans une situation où les entreprises ne pourront pas rester dans cette situation. Et nous sommes dans une situation où, à la fin de l'année, le secteur privé ne représentera plus qu'un tiers de notre économie. C'est-à-dire que la dépense nationale représentera 64% du PIB. Donc, un secteur privé qui ne représentera plus qu'un tiers de l'économie, c'est une sorte d'économie soviétisée sous parapluie européen.
Comment ont opéré les autres pays qui ont des configurations sociales et économiques différentes, certes, mais parce qu'on est tous confrontés à la même difficulté, au Covid, au ralentissement de l'économie, et puis aussi quand même également à une réflexion sur la transition écologique dont beaucoup ont pris conscience aujourd'hui. Alors comment les autres pays font face à cela ? Vous venez de nous dire notre compétitivité par rapport aux autres va être amoindrie, certes. Mais est-ce que celle de nos amis allemands et autres, au niveau mondial, ne le sera pas aussi ?
Alors, c'est une très bonne question, parce que j'ai vu que vous avez démarré d'entrée de jeu sur le plan de relance, et votre question me permet de souligner que le plan de relance, en réalité, il est européen, avec des déclinaisons nationales.
Voilà.
Et vous avez une marque de fabrique, c'est 30% pour la transition écologique. Et ce 30%, vous le retrouvez dans le plan général de l'Union européenne, 750 milliards, et dans chacun des plans nationaux. Donc, ces plans se ressemblent beaucoup, et je dirais que c'est plutôt une bonne nouvelle. Simplement, pour répondre alors de manière plus acide à votre question, l'Allemagne fait beaucoup plus. Nous faisons 460 et 100, ça fait 560. Les chiffres que je lis pour l'Allemagne, c'est plus de 1000 milliards. Mais ces pays-là, dits frugaux, sont rentrés dans la dépression avec des comptes publics beaucoup moins dégradés que les nôtres. Donc, ils ont les moyens de faire davantage. Et, écoutez, nous sommes à Toulouse, l'aéronautique, le tourisme, c'était, vous voyez, je le dis à l'imparfait, les deux fleurons de l'économie française.
nous en dirons un mot tout à l'heure dans la rubrique locale, ils sont profondément atteints. L'économie française, effectivement, est profondément atteinte et je n'ai pas de critique à faire sur le plan de relance. Le plan de relance, en gros, c'est un tiers pour l'investissement des entreprises, c'est un tiers pour la transition écologique et c'est un tiers pour, alors on dit l'emploi, les reconversions, la formation, mais c'est plus que ça, c'est aussi la santé et les équipements territoriaux.
Oui, globalement, 55 milliards sur l'investissement, 20 milliards pour... de baisse des impôts de production,
oui,
ce qui va alléger la trésorerie d'entreprise, les impôts de production étant ceux qui ne sont pas assis sur un quelconque résultat ou sur le chiffre d'affaires, et 3 milliards pour les fonds propres des entreprises, ce qui est certainement un peu court. Mais avant de reprendre le débat, nous avons des propos un peu pessimistes, pardon, mais c'est la situation qui l'exige, et des propos un peu denses, je vous propose de faire une pause musicale. On va la faire la première. J'ai choisi de vous faire entendre, eh bien, vous allez certainement le reconnaître, Serge Reggiani dans une chanson assez originale.
La vie, c'est comme une danse. D'abord, on n'y a pas pensé. On s'est contenté de marcher. Et puis, ça se gâte soudain. Ça vous fait mal. Et on y tient. Et on la soigne. Et le souci, et pour qu'on soit vraiment guéri, il faut vous l'arracher, la vie.
Serge Reggiani, la vie, c'est comme une dent. La comparaison est assez significative, elle est amusante, elle est originale. Et nous pouvons à présent revenir à notre dent de sagesse qui nous fait très très mal, qui est l'économie de la France et l'économie du monde. Alors nous étions sur...
De l'Europe, disons plutôt.
Oui, de l'Europe, mais bon, on est quand même tous un plus ou moins liés. Donc on a dit, les mois à venir sont compliqués, litanie de faillite, amplification probable au printemps... à l'échéance du prêt garanti, bien évidemment. On a dit que le plan de relance français paraissait un peu court, 3 millions pour renforcer les fonds propres des PME. C'est peu parce que ces entreprises, ces PME, oui, ont subi un choc extrêmement violent.
C'est plutôt 3 milliards que 3 millions.
Oui, 3 milliards, pardon. Je me perds dans les zéros maintenant, dans des masses tellement importantes. Et on comprend bien que, finalement, le risque d'une contraction de notre potentiel économique l'a emporté sur la crainte d'un endettement public excessif, mais cet endettement public excessif, et c'était votre propos, Maxime, eh bien, il va falloir un jour y faire face, nous allons devoir tous y faire face à notre échelle, et c'est inquiétant.
Alors, ce matin, nous nous endettons à taux négatif, c'est-à-dire qu'on nous prête de l'argent, on nous donne de l'argent pour que nous nous endettions, à hauteur de moins 0,5 à 5 ans, et moins 0,3 à 10 ans. Donc, ça a du sens de s'endetter pour investir. Mais comme nous l'avons dit, donc moi je soutiens à fond toutes les initiatives présentées par le gouvernement dans le cadre du plan de relance. J'ai noté un sujet dont nous avions beaucoup parlé ici même, la filière hydrogène. Je note le fret ferroviaire. Donc je n'ai pas de critique à faire. Par contre, quand je vois qu'on emprunte pour payer les retraites, parce que c'est ça la vérité aujourd'hui en France, hein, les fonctionnaires ont des retraites qui ne sont pas provisionnées. Là, je ne suis pas d'accord, parce que le jour où les taux d'intérêt remonteront, même, je ne pense pas qu'ils remonteront très haut d'ailleurs, parce que le monde est entré en décroissance, à mon avis, pour une manière durable. Mais le jour où les taux d'intérêt seront peut-être à 1%, par exemple, ça nous coûtera de l'argent. Donc, que nous nous endettions pour investir, je le soutiens, que nous nous endettions pour boucher les trous dans les comptes,
là, il faudra quand même agir. Ce que je voudrais vous dire, c'est que je n'ai pas de critique à faire, mais j'ai une grande inquiétude, que j'ai exprimée d'ailleurs dans un article dans Les Échos, c'est les risques de divergence entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui viennent? Eh bien, en Europe du Nord, vous allez avoir des accords, parce que ce sont des pays où on négocie. Ce sont des pays, d'ailleurs, où la population est syndiquée et où les syndicats agissent dans une optique coopérative. Vous aurez des accords de flexibilité, et quand l'économie rebondira, on reviendra en arrière. C'est ce qui s'est passé, d'ailleurs, en 2008-2009. J'aimerais qu'il en soit de même en France, mais là, j'ai beaucoup de doutes. Parce que, d'ailleurs, le président de la République lui-même l'a dit le 14 juillet, mais comme il parle très vite, on n'entend pas toujours ce qu'il dit. Il a dit « on n'est pas très bon ». Il a dit même « on n'est pas bon du tout pour négocier en France ». Or, nous aurions besoin aujourd'hui, c'est comme ce que vous avez dit tout à l'heure avec le masque, nous aurions besoin de nous serrer les coudes, de nous soutenir mutuellement, entreprises et salariés.
Alors là, on tombe sur un aspect politique et sociologique. Est-ce que l'on peut se soutenir dans un pays où le lien social est aussi gravement endommagé?
Et je partage tout à fait votre...
cette espèce de soutien et de fraternité. Alors certains nous disent, bon ben là, ça va toujours à sens unique, ce sont les entreprises, d'autres se plaignent parce que il y a quand même des différences sociales, des différences de traitement, des différences salariales, des différences au niveau de l'éducation, il y a quand même là-dessus des disparités extrêmement importantes. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas avant tout restaurer le lien social, faire que les fossés se creusent un peu entre différentes catégories de gens, avant de leur demander d'être plus solidaires entre eux?
Et on retrouve le thème qui est à l'origine de notre émission, lorsque nous l'avons fondée il y a plus d'un an, qui est l'éducation. C'est que aujourd'hui, on n'ose pas parler au peuple pour dire la vérité. Or, les chiffres que je vous ai donnés, qui sont de la comptabilité nationale, l'INSEE ni de droite, ni de gauche, ni du centre, montrent qu'aujourd'hui, ce sont les entreprises et l'État qui sont en train de tout payer. Or, il faudra bien quand même que les particuliers participent, parce que sinon, nous n'aurons plus d'entreprises au bout du compte. Et là, ce sont des vérités statistiques. Je suis désolé d'être un peu rébarbatif avec mes statistiques, mais... Vous voyez, donc, en 2014, on a rétabli à peu près les comptes des entreprises, elles ont créé 1 million d'emplois. Mais il a fallu attendre 2008-2014 pour arriver à rétablir les choses. Et en 1974, ça a été pareil, il a fallu attendre la fin du septennat de Valéry Giscard d'Estaing pour retrouver une situation normale. Donc c'est un problème d'éducation.
Oui, alors question, c'est de savoir si, effectivement, on a vu que nous étions très dépendants, je le disais, de pays étrangers, la Chine, hein, pour ne pas le nommer, chez qui nous avons finalement déporté un certain nombre de nos services et de nos fabrications de biens. Le Covid nous a montré que c'était une immense fragilité. Donc, question, est-ce que nous n'allons pas assister à un mouvement inverse qui voudrait que les entreprises françaises se relocalisent sur la France? Alors, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible dans un délai bref? Et si, bref ou en moyen terme, et si cela a été, est-ce que ce ne serait pas une solution pour augmenter notre croissance et surtout diminuer notre chômage?
Alors, moi, je suis un militant de la souveraineté européenne, c'est-à-dire que je veux, comme les dirigeants européens en parole, l'affirment, une souveraineté alimentaire, énergétique et en matière de santé. Mais pour que ce que vous dites se réalise, Jacques, il faut qu'on sorte de cette concurrence qui est complètement faussée. Car le paradoxe de l'Europe, c'est que elle est censée s'être fondée sur le principe de concurrence libre et non faussée, alors que, comme les pays avec lesquels que vous avez cité, l'Inde, la Chine, ne respectent aucune norme environnementale ni sociale, cette concurrence est faussée. Et pour ça, eh bien, je forme le vœu que Madame von der Leyen soit suivie dans sa volonté d'instaurer une taxe carbone aux frontières. Mais vous savez que cette taxe carbone serait un des éléments d'une fiscalité fédérale qui fonderait l'emprunt de 750 milliards que nous avons évoqué tout à l'heure. Mais rien n'est moins sûr, parce que là, Madame von der Leyen va devoir se battre contre l'Organisation mondiale du commerce, qui n'en veut pas. Et toute la question est là, c'est est-ce que l'Europe a la volonté inflexible d'être souveraine, finalement comme la Chine et comme les États-Unis, ou est-ce qu'elle va rester le dindon de la farce dans une mondialisation totalement déloyale.
Mais pour ça, il faudrait que l'Europe parle d'une seule voix, d'une même voix. Il faudrait peut-être simplifier quelques règles de fonctionnement. Et vous l'avez dit tout à l'heure, on a quand même un fossé qui s'est créé entre les pays du Nord, qui sont les pays dits frugaux, ou les pingres, comme les appellent certains, c'est-à-dire Pays-Bas, Autriche, Danemark et Suède. Et il faudrait que aussi nous harmonisions des règles sociales, des fiscales. Donc finalement, l'Europe reste en grande partie à construire. Et sa constitution, si l'on peut dire, reste à améliorer de manière à avoir des décisions plus faciles qui ne nécessitent pas des semaines de négociations et qui ne nécessitent pas, dans certains cas, l'humanité. Non, l'humanité, on espère qu'il y a l'unanimité, décidément, ce masque me joue des tout. Sommes-nous aujourd'hui, avons-nous une organisation européenne qui soit dimensionnée dans ses modes de fonctionnement pour faire face à un défi pareil?
La réponse est non, et je me sens très à l'aise dans ma réponse, parce que moi, je suis un militant d'une France décentralisée dans une Europe fédérale. Et une Europe fédérale, pour moi, c'est pas un super-État, mais c'est ce que vous dites, c'est-à-dire la base de coordination fédérale minimale permettant une grande souveraineté européenne.
Alors comment peut-on arriver à une souveraineté européenne à une époque où il y a quand même un certain repli sur chaque pays et où nous assistons à l'émergence de souverainistes purs et durs, virulents parfois, qui viennent nous dire que l'Europe s'est taillé la part du lion dans les décisions, que chaque pays, chaque nation n'a plus la main sur son avenir, qui est peut-être une façon d'envisager des choses que vous ne partagez manifestement pas, mais sommes-nous dans une époque où l'on puisse se poser ce type de questions? Alors, on pourrait se dire quand même que l'Europe a extrêmement bien réagi, contrairement à ce que certains voulaient dire, face à la crise du Covid-19, bien réagi parce qu'elle n'était pas en charge des politiques de santé, mais pour autant, elle a mis en place une organisation économique et financière qui va peut-être nous permettre de nous en sortir tous ensemble et unis, mais son fonctionnement quand même laisse à désirer aujourd'hui. C'est trop lourd, c'est trop compliqué.
Oui, et puis nous avons une monnaie à 19, et puis nous avons une Europe à 28. Bon, alors moi je tranche, et je dis il faut un directoire de la zone euro, et donc il faut un gouvernement fédéral de la zone euro. Et quand je dis moi je tranche, je ne fais que lire le livre que Valéry Giscard d'Estaing a écrit en 2015-2016, Europa, et qui était une solution pragmatique et opérationnelle. Mais le sujet est très difficile, effectivement.
Face à la montée des populismes, qu'on ne peut pas nier aujourd'hui, que l'on constate tous les jours, et même à commencer dans nos rues, est-ce que vous pensez que l'Europe puisse être une solution? Sur le papier, oui, théoriquement, oui, mais ce qui est souhaitable sera-t-il possible?
Et il faut rendre, je crois qu'il s'est dit que la politique était l'art de rendre possible ce qui était souhaitable. Je voudrais revenir un instant à une conversation privée que nous avions pendant que notre technicienne réglait, problème difficile à régler d'ailleurs avec notre technicien. Je vous disais, compte tenu de ce qu'on a dit tout à l'heure sur le fait que la crise ne se ferait vraiment sentir qu'en 2021, les agences de notation, les sociétés d'assurance crédit estiment que le pic de la défaillance, pour le moment, nous n'avons pas beaucoup de défaillances d'entreprises. Nous en avons moins qu'en 2009. Elles estiment que ce pic sera en mars 2021 et elles estiment aussi qu'au cours de l'année 2021, les défaillances augmenteront de 30%. Et donc, c'est là que nous allons être à l'heure H. Et leur hache, c'est est-ce que le système financier tiendra le coup? Est-ce que notre économie sera suffisamment robuste pour supporter toutes ces défaillances qui sont devant nous?
Mais c'est un discours de clarté, mais que l'on n'entend pas chez ceux qui devraient le porter, à savoir nos dirigeants. J'ai pas entendu M. Macron ou son Premier ministre venir nous expliquer ça, que je sache.
Je vous remercie pour... que vous me faites, parce que c'est le sens de mon engagement ici. Oui. Mais je crois que nos dirigeants ont peur de dire la vérité au peuple. Oui, alors, j'ai dit tout à l'heure que je n'avais pas de critique à faire aux deux plans que nous avons commentés rapidement. j'aurais beaucoup de critiques à faire sur la gestion de la crise sanitaire. Mais je crois que la critique, c'est que on considère que le peuple ne peut pas comprendre. Eh bien non, je crois que l'éducation, c'est de considérer que le peuple est capable, à condition qu'on parle et qu'on dise la vérité. Et alors, vous me permettrez de citer le général de Gaulle, « Comment n'aurais-je pas su que ce qui est bon pour la nation ne va pas sans blâme dans l'opinion ni sans perte dans l'élection ?» Le drame, c'est de vouloir toujours être réélu, ça c'est catastrophique, quoi, parce qu'en fait, c'est incompatible avec l'esprit de vérité. En tout cas, à court terme.
À court terme, mais pour autant, oui, ils veulent tous être réélus et faire leurs 5 ans et les renouveler, mais là, nous sommes dans une phase tout à fait cruciale, économiquement, socialement, sur le plan sanitaire, et puis on en reviendra dans notre émission Résilience, sur le plan des perspectives de notre civilisation. Moi, je n'ai pas l'impression que le politique est à la hauteur des enjeux. Alors, bon, nous sommes dans une émission économique, mais il faut quand même dire les choses.
Oui, alors, j'aurais beaucoup de critiques à faire sur la crise sanitaire, la façon dont elle a été menée, mais sur la question européenne, qui nous occupait il y a un instant, je pense que le président Macron a été fidèle à son discours de la Sorbonne et qu'il est allé dans la bonne direction. Et j'ai été même surpris que Mme Merkel ait fini par le rejoindre sur le plan d'union de transfert. Parce que vous avez souligné déjà que la France allait recevoir 40 milliards hein, sur les 100 milliards.
Oui.
Mais l'Italie va en recevoir 85. Donc, vous voyez qu'un pays comme l'Italie, qui galère depuis des années, va bénéficier de ce plan européen qui est conforme à la théorie du prix Nobel Robert Mundell, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une union monétaire entre des économies largement divergentes s'il n'y a pas une redistribution, non pas sociale, mais de capital. Enfin, c'est un peu comme l'économie du Lot, du temps du docteur Bernard Ponce et de Georges Pompidou, où il y avait des projets, ou la Corrèze de Jacques Chirac, où il y avait des projets qui tombaient de Paris en capital avec des investissements pour muscler ces départements un peu périphériques. Et bien, c'est exactement pareil, la théorie de Mundell que nous avons rappelée dans les échos récemment avec mon ami Jean-François Verdier, c'est de dire il faut une union de transfert. Et cette union de transfert est amorcée. Moi, je suis impressionné de voir 85 milliards pour l'Italie. D'ailleurs, il y a aussi des fonds structurels européens qui ne sont pas utilisés. Il y a aussi le mécanisme européen de stabilité qui a été créé en 2012, qui est largement sous-employé. Est-ce que l'Italie, pour ne pas citer la France, va être capable d'avancer des projets qui soient à la mesure des, entre guillemets, cadeaux qu'on lui fait, c'est-à-dire des projets utiles? Là, il y a un vrai
sujet. Oui, peut-être je reprendrai le terme de cadeau, qui n'est pas, ça s'appelle de la solidarité.
Mais solidarité, vous avez raison. Oui.
Tout le monde n'est pas solidaire, parce que vous savez que les pays frugaux que j'ai cités tout à l'heure ont obtenu des rabais. Alors, ça, le mécanisme des rabais, ça, c'est mieux, ça date de Thatcher qui disait, mais attendez, je donne plus que je ne reçois, donc c'est pas normal, donc il faut que j'ai une participation financière qui soit diminuer. Alors, ça avait créé une jurisprudence à l'époque, et puis on n'avait plus entendu parler. Même on s'est dit, le Brexit étant passé, c'est terminé, cette théorie. Mais là, les pays frugaux ont recyclé ce qui est finalement un outil de négociation. Les Pays-Bas, par exemple, pour ne citer qu'eux, mais ils étaient moteurs avec leur premier ministre, Mark Rutte, qui était talonné par sa droite et son extrême droite. Les Pays-Bas vont réduire leur facture auprès de l'Europe de 2 milliards d'euros, ce qui fait que la Commission qui proposait de fixer son budget à 1100 milliards d'euros, ben on l'a raboté puisque maintenant on est tombé à 1 milliard 70 000. Donc les ambitions de l'Europe, notamment dans le domaine de la santé, ont été un peu éradiquées. Et puis il y a des choses qui vont souffrir. Le programme Erasmus, par exemple, cet échange d'étudiants qui est fondamental pour créer l'Europe et créer un lien social en Europe, va être un peu décapité.
Oui, mais sans entrer dans une polémique. Oui, moi je rappelle toujours que la France est à l'origine de l'euro. L'euro, c'est le président Mitterrand, c'est le président Giscard d'Estaing, c'est Jacques Delors. Or, nous avons violé en permanence les règles de l'euro. Donc aujourd'hui, si nous avons la chance d'avoir des retraites payées, et non financées d'ailleurs, hein, entre parenthèses, dans une monnaie forte, stable, c'est parce que d'autres pays ont respecté les règles à notre place. Et c'est la théorie du passager clandestin. Donc je ne vais pas, moi, faire des critiques aux frugaux avec leurs rabais, etc. Le fait est que là, il y a une avancée, puisque il va y avoir 85 milliards pour l'Italie et 40 milliards pour la France. Donc, Paris vaut bien une messe. Et n'oublions pas qu'en fait, nous n'avons jamais respecté le pacte de stabilité. Les présidents Chirac, les présidents Sarkozy, pour ne pas citer François Hollande, qui lui, finalement, a augmenté les impôts, ont violé régulièrement le pacte de stabilité. Donc moi, je n'ai pas de critique à faire à nos partenaires. Parce que je veux une équipe européenne qui avance.
La règle, donc, c'est monnaie, monnaie. Que chante le groupe ABBA et nous l'écoutons.
Monnaie, monnaie. Exactement.
Alors, c'est et on appelle ça la monnaie hélicoptère. Hein,
absolument.
Vraisemblablement.
Cet homme est Ben Bernanke, qui était le président de la Réserve fédérale des États-Unis d'Amérique au moment de la grande crise de 2008. Et on lui disait, monsieur le président, alors, quand vous aurez mis vos taux à zéro, si l'économie ne repart pas, qu'est-ce que vous ferez? Il avait répondu, je prendrai un hélicoptère.
Oui, il avait répondu, je prendrai l'hélicoptère et je lancerai sur la ville des sacs de billets. Je crois que c'est de là que vient cette expression monnaie hélicoptère. Alors, c'est ce qui fait que depuis tout le monde regarde quand un hélicoptère passe en se disant mais il y en a peut-être un qui va lancer des sacs de billets. Enfin, c'est une drôle de conception. Mais pourquoi pas, Maxime? Nous arrivons à nos dernières rubriques, l'avant-dernière. Je sais que vous voulez nous parler de l'eau, mais vous nous en parlerez la prochaine fois. Moi aussi, je vais vous parler d'eau dans cette avant-dernière rubrique et qui concerne l'économie en Occitanie. Alors, je vais étendre un peu géographiquement l'Occitanie, puisque je vais aller jusqu'en Lot-et-Garonne. On ne l'a pas encore annexé, mais c'est quand même tout proche. Pour vous dire, et c'est une histoire d'eau là aussi, sans jeu de mots, que les responsables de la réalisation illégale du barrage de Caussade, achevé au printemps 2019 et qui était destiné à l'irrigation d'une vingtaine d'exploitations, ont été condamnés en première instance le 10 juillet par le tribunal d'Agen. Et condamnés assez lourdement, parce qu'on les avait quand même, ils ont construit ce barrage hors toute autorisation, ils avaient même interdiction de le construire, et le président et le vice-président de la Chambre d'agriculture ont écopé de 13 et 22 mois de prison ferme, ce qui n'est quand même pas rien. Ce qui leur rappelle à ces agriculteurs dont nous avons bien besoin, mais pas à n'importe quelles conditions, qui nous rappelle qu'ils ne sont pas au-dessus des lois, et surtout, plus largement, prenant de la hauteur, qu'il est urgent de trouver des solutions durables, non conflictuelles, à une gestion de l'eau qui va devenir de plus en plus rare. L'augmentation des températures oblige, et certainement une recherche aléatoire. Donc il va falloir, Maxime, mais je sais que bientôt vous allez revenir sur cette question, il va falloir parler de ce problème de l'eau, de sa rareté, de sa distribution et de la nécessaire réglementation qu'on va devoir faire appliquer. Dernière rubrique, le conseil culturel, hein, pour aller un peu plus loin toujours. Je vous ai annoncé en début d'émission la prochaine Résilience, donc l'autre émission, l'émission un peu sœur d'Economica, durant laquelle nous allons faire une spéciale sur le pétrole, qui est la grande affaire du 21e siècle et du 20e, mais peut-être du 21e siècle, en ce sens que le pétrole, l'abondance du pétrole risque de décliner très, très sérieusement avec tous les impacts économiques, sociaux que cela pourrait avoir. Et pour aller plus loin sur cette question, peut-être pour préparer l'émission, je vous propose la lecture de L'or noir de Mathieu Ozano, La grande histoire du pétrole. Alors, le livre est gros, soyons clairs, il est gros, il fait 700 pages. Je l'ai lu, c'est un polar, c'est un véritable polar, c'est fabuleux, on apprend, c'est une saga, on apprend comment, on comprend comment s'est construit notre monde, l'origine des guerres qui ont émaillé le 20e et le 21e siècle, et c'est pas terminé. Quand vous voyez par exemple les Turcs qui s'aventurent sur le territoire maritime de la Grèce, c'est pas pour faire du tourisme, c'est pas pour rouler des mécaniques, c'est pour aller chercher de l'énergie, notamment du gaz. Donc cette grande quête de l'énergie qui a commencé vers 1859, hein, après, avec le jaillissement du premier puits de pétrole, bien l'énergie c'est une source de pouvoir, et vous apprendrez dans ce livre très renseigné, très documenté, très factuel, mais encore une fois absolument passionnant, quand on l'a, on ne le quitte pas, vous apprendrez que cette quête de pétrole, donc d'énergie, de puissance, a été effectuée à n'importe quel prix, humain, social, économique, sans aucune considération éthique. J'avoue que si je l'avais lu, moi qui étais dans mes jeunes années universitaires, entre guillemets, des gros guillemets, hein, spécialiste de l'international et des relations internationales, si j'avais eu cette clé de lecture à cette époque-là, j'aurais certainement plus rapidement appréhendé toutes ces questions. Donc je vous le rappelle, L'or noir de Mathieu Ozano, n'hésitez pas à le lire, et j'espère que nous pourrons passer prochainement une heure avec Mathieu Ozano. Vous verrez, c'est un grand spécialiste de cette question, qui est aujourd'hui le directeur général du Shift Project, dont nous vous parlons souvent, qui est un think tank parisien, qui travaille sur l'environnement et sur la décarbonation de notre atmosphère. Donc une question absolument centrale. Voilà, nous sommes arrivés, Maxime, à la fin de cette émission. Merci à Yanis Boudin qui l'a enregistré. Alors Yanis Boudin, oui, c'est la première fois que je le cite, puisque il vient de rejoindre l'équipe pour s'occuper de la technique durant toute la saison 2020-2021. Vous pourrez retrouver, comme d'habitude, le podcast de cette émission, ainsi que ceux de toutes les autres, sur le site d'Esprit Occitanie. Et nous nous retrouvons dans une quinzaine de jours pour une nouvelle édition d'Economica. Belle journée à toutes et à tous.